Bonjour, bienvenue au cours de linguistique générale. Cette année, on va parler de théorie grammaticale et acquisition du langage. Nous allons explorer ensemble les rapports entre ces deux grands domaines de la recherche linguistique. Et je voudrais vous présenter brièvement le programme du cours. Donc aujourd'hui, je ferai une sorte d'introduction générale et je voudrais en particulier illustrer deux stratégies complémentaires pour l'étude de l'acquisition du langage. Une stratégie qui prend comme point de départ l'état cognitif initial, c'est-à-dire ce que le bébé a à l'esprit, disons les capacités que le bébé a par rapport au langage. Qu'on peut étudier expérimentalement, comme on le verra. Et l'autre stratégie, peut-être moins évidente, qui part de l'état cognitif stable. C'est quoi l'état cognitif stable? C'est ce que nous, adultes, connaissons sur notre langue. Donc l'ensemble de connaissances que l'adulte a sur sa langue maternelle ou sur ses langues maternelles. Et puis, dans cette perspective, on essaye de remonter, se poser le problème de l'acquisition. Étant donné ce système de connaissances, comment est-ce que j'ai pu acquérir un système de la complexité que j'observe, notamment. Je voudrais illustrer ça en parlant un peu de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial, d'un côté, et discuter avec vous la nature hiérarchique de la représentation linguistique chez l'adulte, et puis essayer de voir si ces représentations sont organisés hiérarchiquement aussi chez le bébé, chez le petit enfant. Voilà pour aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, je voudrais essayer de mettre en relation deux caractéristiques très importantes du langage naturel humain. C'est-à-dire, d'un côté, le caractère illimité du langage. Le fait que nous sommes capables, toujours, en n'importe quelle situation, d'inventer une phrase nouvelle, une phrase que nous n'avons jamais entendue. Ça, c'est une caractéristique qui définit vraiment le langage humain par rapport au système de communication animale et d'autres systèmes imaginables. Donc, cette propriété, caractère illimité, et la structuration hiérarchique, le fait que les représentations syntaxiques sont organisées hiérarchiquement d'une manière qu'on va essayer d'illustrer. Ces deux propriétés apparemment très différentes sont en effet liées d'une manière très étroite, en ce que le mécanisme qu'on peut proposer pour traiter le caractère illimité du langage donne comme conséquence automatique la structuration hiérarchique des configurations linguistiques. On va voir ça la prochaine fois. Et puis, je voudrais aussi discuter la prochaine fois de l'invariance et de la variation. Ça, c'est la question fondamentale de la linguistique comparative. N'est-ce pas ? Si on compare les langues, on constate que certaines propriétés restent invariantes, sont toujours les mêmes. Il y a des universaux linguistiques, en d'autres termes. Et il y a, bien sûr, des propriétés variables. Peut-être la variabilité est la propriété qui nous frappe particulièrement quand on considère les différentes langues. Donc, invariance et variation, et comment on traite de ces propriétés dans les cadres linguistiques théoriques, je voudrais discuter avec vous la théorie de paramètres et voir comment cette théorie se rapporte à l'acquisition du langage. Puis le 7 juin, je voudrais faire un travail un peu plus analytique et étudier certaines constructions enfantines typiques. Pour ce cours, on va se concentrer sur une période qui est assez extraordinaire pour l'acquisition du langage. C'est la période qui frappe tous les parents qui ont affaire avec un petit enfant. L'âge entre 2 et 3 ans, disons en gros. Quand on voit que le système linguistique pousse, s'accroît et se complexifie chaque jour, fondamentalement. L'enfant devient capable de parler d'une manière qui ressemble de plus en plus à l'adulte. Néanmoins, dans cette période, on observe que l'enfant produit certaines constructions qui ne sont pas comme les constructions adultes. Donc il y a encore des points de divergence entre le système enfantin et le système adulte. Je vais parler en particulier de deux fameuses parce qu'elles ont été beaucoup étudiées, propriétés de cette phase, l'omission du sujet. Hein, l'enfant, même s'il apprend une langue comme le français, où le sujet est obligatoire, il se permet de l'omettre de manière très très libre. Et l'autre, ce qu'on appelle les infinitives principales, c'est-à-dire des structures déclaratives où l'enfant décrit des états de choses, mais où il utilise le verbe à l'infinitif plutôt que le verbe conjugué comme l'adulte le ferait. Ça semble une banale propriété morphologique, mais en effet, ça a des conséquences structurelles très importantes que nous allons essayer d'illustrer. Puis le 14 juin, on parlera de la croissance des arbres. C'est quoi les arbres? Ce sont les représentations, on va en voir beaucoup, hein, représentations syntaxiques qui expriment ce caractère hiérarchique des structures syntaxiques. Et il y a un sens en lequel, dans l'acquisition du langage, les arbres poussent, deviennent plus grands. Au début, l'enfant, supposons un an et demi, deux ans, produit des petits arbres, de petites structures. Et puis, il y a cette poussée progressive, cette croissance progressive. Et on va essayer de voir, le 14 juin, le développement du langage du point de vue du développement de ces structures. Comment les arbres deviennent des grands arbres, fondamentalement. Puis le 21 juin, je voudrais me focaliser sur une période un peu plus tardive de l'acquisition du langage. Vers l'âge de 4 ans, l'enfant parle déjà assez bien, très bien même. On peut interagir avec un enfant de cet âge de manière excellente du point de vue linguistique, mais il y a quand même encore quelques difficultés qui caractérisent cette phase aussi jusqu'à 5 ans et même 6 ans. Il y a certaines constructions qui restent très difficiles pour l'enfant. Par exemple, un certain type de relatives, de phrases relatives ou de phrases interrogatives, qui sont totalement compréhensibles et utilisables pour les adultes et qui sont très difficiles pour les enfants à cet âge. Donc on va essayer de discuter de ces difficultés tardives, si on veut, et essayer de voir comment on peut ramener ces propriétés à la théorie de la localité, un domaine très important de l'étude de théorie grammaticale. Puis la dernière leçon, le 28 juin, on va tirer quelques conclusions sur la base de ce qu'on aura vu. Et il y aura des approfondissements à faire, probablement. On verra sur la base de ce que j'arrive à faire dans le cours. Comme vous le savez, le cours est immédiatement suivi par un séminaire. Donc aujourd'hui, je vais parler jusqu'à 11h30 environ, peut-être un peu avant, comme ça, s'il y a des questions, on pourra faire aussi un petit peu de discussion. Et puis, à 11h30, le séminaire commence, et systématiquement, chaque mardi, c'est comme ça. Aujourd'hui, le séminaire sera introduit par Caterina Donati, de l'Université de Paris Cité. Et Caterina va nous parler du bilinguisme, mais en effet d'un cas très spécial de bilinguisme. Bilinguisme d'enfants qui maîtrisent et une langue orale et une langue des signes. Et donc elle va nous montrer comment, en étudiant ce type particulier de bilinguisme, on peut tirer des conclusions générales sur le bilinguisme, mais aussi sur la compétence linguistique, sur le savoir linguistique du locuteur. Le 31 mai, la conférencière invitée sera Judith Gervain, qui est maintenant à l'Université de Padoue. Gervain est une grande spécialiste de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial. Je vais parler un tout petit peu de ça aujourd'hui, mais Judith va reprendre ça en beaucoup plus grand détail la semaine prochaine. Puis le 7 juin, Teresa Guasti, de l'Université de Milan Bicocca, va parler de son grand projet sur l'acquisition financé par l'IRC, avec un financement du European Research Council. Donc on entendra de ce grand projet sur l'acquisition. Le 14 juin, Ghislaine Dehaene, grande spécialiste d'imagerie cérébrale, va nous parler de ce qu'on peut déterminer par des études d'imagerie sur le petit enfant et sur le bébé même. Donc ce qui se passe dans le cerveau du petit, même du bébé, quand il utilise le langage ou quand il est soumis à des stimuli linguistiques. Le 21 juin, Naama Friedman, de l'Université de Tel Aviv, va ouvrir le chapitre de la pathologie, va parler en particulier d'un type ou d'une classe de formes de pathologie qui sont liées à la question de la période critique. C'est quoi la période critique ? C'est le fait qu'il y a des fenêtres privilégiées pour l'acquisition du langage. Nous savons tous que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère que pour les adultes, malheureusement. Et donc, il y a des périodes critiques. Et il est essentiel que pendant cette période, la stimulation linguistique soit appropriée. S'il y a des limitations à la stimulation linguistique accessible à l'enfant dans une période critique, il y a des difficultés, il y a des problèmes que Naama va présenter et décrire. Et puis, le dernier séminaire, le 28 juin, sera donné par Anne-Christophe, de l'École normale, ici à côté. Et Anne-Christophe, aussi grande spécialiste de l'acquisition du langage, va nous parler des synergies, des rapports entre l'apprentissage du lexique et l'apprentissage de la syntaxe, deux choses qui sont strictement liées. Voilà donc notre programme, et nous pouvons commencer. Comme je le disais, donc, il y a deux grandes stratégies qu'on peut suivre pour l'étude de l'acquisition. Une stratégie qu'on pourrait appeler prospective, donc on regarde en avant. On commence de l'état cognitif initial, l'état cognitif du bébé qui commence à apprendre le langage, à la naissance même, et on fait une sorte de photo de son état cognitif en ce moment, sur la base de techniques expérimentales que nous allons discuter. Puis on peut prendre une autre photo à l'âge d'un mois, supposons, puis une autre à l'âge de 3 mois, et ainsi de suite. Et voir, cette série de photos nous donne une image assez directe du parcours du développement de l'enfant. La deuxième stratégie est beaucoup moins évidente, c'est une stratégie rétrospective, c'est-à-dire on regarde en arrière. On part de l'état cognitif stable, donc de notre connaissance de la langue, de notre langue maternelle, en tant que locuteur adulte. Donc il y a un point où le développement du langage s'arrête pour l'essentiel, et c'est cela que nous appelons l'état cognitif stable. Évidemment, nous pouvons continuer à apprendre des choses. On apprend de nouveaux mots, par exemple, ça arrive normalement. Mais pour l'essentiel, la structure, la connaissance, notre connaissance du langage reste stable. Donc on peut partir d'une caractérisation précise de l'état cognitif stable. Et ici, la linguistique contemporaine, les études de théorie grammaticale sont extrêmement importantes parce qu'elles nous donnent les moyens pour caractériser la connaissance adulte de la langue de manière précise. Donc on part de cela et on se pose la question, mais comment cette propriété a été déterminée et à quel point elle a été acquise par l'enfant. Donc on revient en arrière et on se pose cette sorte de question. Cette stratégie rétrospective est très importante pour l'étude des rapports entre la linguistique, la théorie grammaticale et l'étude de l'acquisition. Et elle a l'avantage de nous donner immédiatement la dimension de la complexité de la tâche à laquelle le bébé est confronté. Le bébé doit pouvoir apprendre un système qui a toute la complexité que les études de linguistique montrent, n'est-ce pas ? Donc, comment est-ce qu'il y arrive ? Quels sont les moyens qui lui permettent d'arriver à cette compétence extraordinairement riche, complexe et articulée ? Voilà, donc, partons d'un grand classique, et d'une citation. Donc, Charles Darwin, dans son ouvrage The Descent of Man, avait essayé de, on pourrait dire, ramener les capacités cognitives humaines ou en tout cas mettre en relation les capacités cognitives humaines avec sa théorie de l'évolution. Et donc, bien sûr, il parle de les capacités cognitives principales de notre espèce, il parle du langage. Regardons ce qu'il dit en regardant directement la traduction en français. Le langage n'est certainement pas un instinct dans le sens propre du mot, car toute langue doit être apprise. Alors, c'est évident, le petit apprend la langue de sa communauté, n'apprend pas, n'hérite pas la langue de ses parents. N'est-ce pas ? Donc il y a un élément très important d'apprentissage. Il diffère, le langage diffère beaucoup cependant, de tous les arts ordinaires, en ce que l'homme a une tendance instinctive à parler. Il y a une tendance instinctive à la base du langage, comme nous le prouve le babillage des enfants. Tandis qu'aucun enfant n'a une tendance instinctive à brasser, à faire du pain ou à écrire. Donc il y a des capacités qui sont totalement culturelles, comme les dernières qui sont illustrées ici, et nous ne voyons qu'un signe d'une tendance instinctive pour ces capacités. Mais pour le langage, c'est différent, parce qu'à l'âge de 6 mois, quand le bébé sait faire très peu de choses, en tout cas de manière visible, eh bien, il commence à produire des structures linguistiques significatives, des syllabes fondamentalement, n'est-ce pas ? Ba, 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 da, etc. Il y a cette phase de babillage d'après Darwin, suggère qu'il y a une base instinctive pour le langage. Alors, l'étude de cette base instinctive ne pouvait pas être très développée à l'époque de Darwin, ça a été développé par la suite. Mais voyons d'abord une autre citation d'un grand psychologue américain, William James, qui caractérise comme ça le problème auquel le bébé est confronté. William James dit « Le bébé assailli par les yeux, les oreilles, le nez, la peau et les entrailles en même temps ressent tout cela comme une grande confusion foisonnante, bourdonnante. » Donc « one great blooming buzzing confusion ». En d'autres termes, le bébé est bombardé par toutes sortes d'expériences qui proviennent de ses sens, qui proviennent de l'environnement évidemment. Comment arrive-t-il à ordonner ces expériences, à classer ces expériences de telle façon qu'elles portent sur les différents savoirs qu'il devra acquérir. Il y a un problème initial de choix, comment dire, de séparation entre les différents types d'expériences. Ici, je voudrais introduire une grande personnalité, Jacques Meller, qui a opéré longuement en France, qui est le père de l'étude de l'état cognitif initial, étude scientifique, l'état cognitif initial en France, mais non seulement en France, aussi en Italie, ailleurs en Europe, aux États-Unis, et on va parler de certains de ces résultats. C'est un grand maître, hein. Je me suis rendu compte que un peu plus que la moitié des conférenciers invités avaient été des élèves de Meller, je m'en suis rendu compte a posteriori. Alors, Jacques Meller a écrit avec son élève Emmanuel Dupoux ce livre, ce très beau livre intitulé « Naître humain », qui est une très belle introduction aux sciences cognitives du point de vue du bébé, du point de vue des capacités du bébé. Alors, quel est le point de départ de nos capacités cognitives extrêmement riches et variées en tant qu'adultes. Donc il parle du langage, bien sûr, mais il parle de toutes sortes d'autres capacités que le bébé a, par exemple reconnaissance de visage, par exemple physique naïve, hein, les attentes que le bébé a par rapport au fonctionnement du monde, etc. Alors, Meller et Dupoux caractérisent le problème de William James comme ça. Le bébé n'entend pas seulement des signaux linguistiques parfaits dans des conditions idéales. Son environnement est au contraire encombré de toutes sortes de bruits. Comment, de ce chaos confus, le bébé peut-il extraire les stimuli pertinents pour apprendre à parler ? Donc c'est la version de Meller de la Great Blooming Buzzing Confusion de William James. Alors, comment est-ce que le bébé arrive à faire ça? Eh bien, certains résultats expérimentaux indiquent une propension à être attentif aux signaux linguistiques. Donc, il y a une attention sélective du bébé pour les signaux linguistiques par rapport aux autres bruits, aux autres sons de l'environnement. On a regardé ça expérimentalement et on a découvert, en effet, une préférence du bébé à écouter la parole humaine par rapport à toutes sortes d'autres sons ou bruits, par rapport aux vocalisations humaines non communicatives, par exemple. Nous pouvons produire des bruits non communicatifs, évidemment. On peut tousser, etc. D'autres bruits de l'environnement, des signaux artificiels qui imitent certaines caractéristiques des sons naturels. Hein. Donc, le bébé a cette préférence pour la parole. Il aime la parole. Et cette propension, vraisemblablement, amène le bébé à prêter une attention spéciale à la parole, facilitant ainsi l'acquisition du langage. Les éthologues classifient cette attention spéciale, observent cette attention spéciale dans beaucoup d'autres espèces. Hein. Les petits d'une espèce X ou Y ont tendance à prêter une attention spéciale aux signaux produits par le con spécifique. C'est très utile hein, pour la survie du petit. Donc, par exemple, Peter Marler parle d'un Instinct to Learn, en reprenant le travail classique de Lawrence, de Tinbergen, etc., etc., des traditions d'études en éthologie. Et cette préférence du bébé pour la parole peut être considérée dans ce contexte d'études éthologiques. La propension précoce pour la parole est confirmée par l'imagerie cérébrale. Alors, c'est vraiment ce dont Ghislaine Dehaene va nous parler dans deux ou trois semaines. En tout cas, ce qu'elle a observé, un résultat important, est que le traitement de la parole active un circuit cortical latéralisé à gauche, déjà chez les bébés prématurés, donc des bébés qui sont nés après à peine 28 semaines de gestation, déjà montrent cette activation sélective pour le langage latéralisé à gauche. Donc, dans une période où l'organisation corticale du bébé est encore certainement incomplète. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement précoce et les études d'imagerie ont une grande importance à mettre en relief cet aspect. Donc, le bébé préfère la parole à d'autres bruits, mais il a des capacités aussi beaucoup plus raffinées. Et ici, on revient à Meller. Avec ses étudiants, il a montré que le bébé, pratiquement à la naissance, est capable de discriminer les langues, c'est-à-dire de se rendre compte, si on passe dans son environnement d'une langue à l'autre, de se rendre compte qu'il y a eu ce passage, que le stimulus qui est présenté est différent par rapport au stimulus précédent. Comment est-ce qu'ils ont fait cela ? Bien, ils ont utilisé une locutrice bilingue, parfaitement bilingue. Le cas qu'ils avaient regardé à l'origine, c'était le français et le russe, donc une locutrice bilingue français-russe, qui a fait des enregistrements dans les deux langues. Et puis, donc, il y avait des textes en français, des textes en russe. Certains des bébés entendaient le texte en français suivi d'un autre texte en français. D'autres bébés entendait le texte en français suivi d'un texte en russe. Donc, ils ont essayé de voir si le deuxième groupe de bébés se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et le résultat a été tout à fait étonnant. Ah, il faut dire d'abord comment on se rend compte que le bébé observe une différence, n'est-ce pas ? On ne peut pas lui demander. On peut le faire avec l'adulte, mais pas avec le bébé. Donc, on utilise un type de comportement dans lequel le bébé est très bon. La capacité de téter, la succion, on appelle ces méthodes succion non nutritive. C'est-à-dire on a observé que le bébé qui est en train de téter, quand il est soumis à une stimulation qu'il trouve intéressante, il commence à téter plus vigoureusement et plus fréquemment. Okay? Donc, en mesurant simplement le taux de succion, on voit s'il considère une certaine stimulation nouvelle par rapport à ce qu'il avait entendu avant. Une méthode qui paraît un peu compliquée, mais qui a été extraordinairement productive pour détecter les capacités du bébé dans plusieurs domaines, non seulement dans le langage. Alors voilà les résultats de ce premier travail sur la question du groupe de Meller et al. À la fin des années 80. Alors ici, vous avez... je ne sais pas si ça marche, peut-être pas. Oui, voilà, ça marche. Donc ici, vous avez deux groupes de bébés qui entendent des textes en français. Vous voyez qu'au début, c'est intéressant, donc le rythme de succion augmente, puis c'est toujours le même, donc ce n'est pas très intéressant, donc ça descend. Okay. Et ici, vous avez un groupe qui continue à entendre, supposons que le premier texte était du russe, le premier groupe continue à entendre du russe. Ce n'est pas très intéressant, donc le taux de succion reste bas. Ici, c'est le groupe qui entend le français. Vous voyez qu'il y a un saut. Le bébé se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Il commence à téter plus vigoureusement. Et donc, il y a cette différence montre que le groupe qui a été soumis au passage d'une langue à l'autre s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui changeait dans l'environnement. Utilise cette méthode de manière vraiment extraordinairement efficace pour tester toutes sortes de propriétés. On peut constater aussi qu'ils ont fait un très beau contrôle. Ils ont soumis au bébé, non pas le russe, le français, mais ils ont fait défiler à l'envers la bande magnétique du russe et du français. Donc vous prenez l'enregistrement, mais vous allez à l'envers, pour ainsi dire. Et vous voyez que là, ce qu'on entend, ce n'est pas du tout quelque chose qui ressemble à une langue naturelle. Mais si vous faites défiler la bande magnétique à l'envers, certaines propriétés restent constantes. Par exemple, la hauteur globale, l'énergie du signal reste constante. Donc c'est clair que le bébé qui n'arrive plus du tout à discriminer entre le russe à l'envers et le français à l'envers, est sensible à des propriétés plus fines que ces propriétés globales qui restent constantes. En particulier, des propriétés liées à l'ordre temporel fin de la présentation linguistique. Voilà, est-ce que... On s'est posé la question. Ici, le bébé discriminait entre le français, qui était la langue parlée par sa mère, et une autre langue comme le russe, on s'est posé la question, est-ce que ces 2, 3, 4 jours de vie, de contact avec le français suffisent pour que le bébé arrive à déterminer des propriétés qui lui permettront de le distinguer d'une autre langue? Ou bien peut-être la stimulation qu'il a reçue avant la naissance, c'est pas parce que le fœtus entend dans la dernière partie de la grossesse, il a accès à certaines stimuli linguistiques, quoique filtrées par le corps de la mère, évidemment, mais il a quand même accès à quelque chose. Donc les spécialistes ont discuté si ce type de stimulation était essentiel pour discriminer les langues. Ils sont arrivés à la conclusion que non, qu'en effet, la capacité de discriminer les langues était indépendante de l'expérience, parce que le bébé francophone, futur francophone, qui n'a entendu qu'un peu de français, est capable de discriminer deux langues qu'il n'a jamais entendues. Par exemple, il est capable de discriminer entre l'anglais et le japonais, par exemple, par le même type de technique. Donc, vous voyez ici exactement la même histoire qu'avant. D'abord, le bébé entend de l'anglais, puis un groupe continue à entendre de l'anglais, pas très intéressant, pas beaucoup de... Le rythme de succion n'est pas très haut. Par contre, le groupe qui entend le japonais dit « Ah, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé », et il commence à téter plus vigoureusement. Voilà comment ces expériences marchent. Mais dans ce cas, le bébé n'avait rien entendu de deux langues qu'il est capable de discriminer. Donc cette capacité n'est pas fondée sur son expérience initiale sur la langue maternelle, évidemment, parce qu'on a affaire ici à d'autres langues. Voilà, comment est-ce que... Quelles sont donc les propriétés auxquelles le bébé est sensible? Les psycholinguistes, le groupe de Meller en particulier, Ramu et d'autres de ses étudiants, ont fait appel à une notion très précise de rythme. Il y a plusieurs sens dans lesquels on peut utiliser la notion de rythme par rapport au langage, mais il y a un sens particulier qui est pertinent ici. Et c'est l'alternance consonne-voyelle, n'est-ce pas? Une langue est caractérisée par une alternance consonne-voyelle, consonne-voyelle. Et cette alternance peut être très irrégulière, comme dans une langue comme l'anglais, par exemple, moyennement irrégulière et très régulière dans une langue comme le japonais. Par exemple, en anglais, vous voyez que si vous prenez n'importe quelle phrase de l'anglais, parfois, deux voyelles sont séparées par une seule consonne. Parfois, il y a quatre consonnes. Parfois, il y en a trois, etc., etc. Donc, le rythme d'une langue comme l'anglais, en ce sens, est caractérisé par une grande irrégularité. Dans le cas d'une langue comme l'italien ou comme le français, c'est plus régulier. Vous voyez que souvent, deux voyelles sont séparés par une ou deux consonnes, fondamentalement. Parfois trois, mais c'est relativement rare. Et dans un cas d'une langue comme le japonais, c'est très, très régulier. C'est presque consonne-voyelle, consonne-voyelle, consonne-voyelle. C'est pas exactement cet idéal, mais c'est très proche de cela. Donc, selon l'hypothèse que ces psycholinguistes ont fait, en excluant toutes sortes d'autres hypothèses, est que le petit enfant est sensible à la régularité du rythme, selon cette classification des langues du monde. En effet, les mêmes psycholinguistes ont pu montrer que, par exemple, le bébé n'est pas capable, est capable de distinguer entre deux langues qui appartiennent à deux classes différentes. Donc, par exemple, l'anglais et le japonais, l'anglais et l'italien, etc. Mais ils ne sont pas capables de distinguer à l'intérieur de la même classe. Par exemple, si vous comparez l'anglais et le néerlandais, il n'y a pas de distinction qui est faite par l'enfant. Donc, cette capacité remarquable, cette sensibilité au rythme, vaut pour ce genre de classification de langues, donc deux langues de deux types rythmiques distincts sont discriminés par l'enfant. Voilà donc une autre capacité de perception de son qui est extrêmement importante pour le langage adulte, c'est la perception catégorielle des contrastes phonétiques. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire perception catégorielle? Le son est de par sa nature continue. Hein. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, la distinction entre deux syllabes comme « da » et « ta ».« Da » et « ta », donc une distinction de sonorité. Et vous pouvez créer toutes sortes de cas intermédiaires entre un « da » parfait et un « ta » parfait. Hein, vous pouvez manipuler le son de cette manière. Mais si vous demandez au locuteur « est-ce que vous avez entendu « da » ou « vous avez entendu « ta » ?» Le locuteur adulte ramène toujours le continuum du son à des catégories discrètes. Donc, jusqu'à un certain point dans ce continuum, le locuteur entend « da », puis il y a une transition de phase soudaine et il commence à entendre « ta ». D'accord ? Donc, on ramène le continu au discret. Et comme vous pouvez imaginer, c'est très important parce que pour maîtriser une langue, il faut pouvoir dire qu'un objet linguistique est le même, même face à des événements physiques très différents. Pensez par exemple au même mot prononcé par un petit enfant, par un adulte, par un homme, par une femme, etc. Il faut pouvoir dire que chaise, c'est toujours chaise, quel que soit l'événement physique auquel on est soumis. À ce point, on s'est posé la question, est-ce que les bébés perçoivent catégoriellement ou non ? On pourrait imaginer que c'est quelque chose qui est appris sur la base de l'expérience. Eh bien, non. Peter Imas, ce psycholinguiste de Brown, de l'Université Brown aux États-Unis, a montré dans les années 70 que les bébés percevaient catégoriellement aussi, vous voyez ce type d'expérience, ici la stimulation était pas par rapport à bas, on utilise toujours le rythme de succion, donc le bébé entend pas être très intéressant, donc le rythme de succion diminue, puis on passe à bas, ah, c'est intéressant, c'est nouveau, mais ça veut dire que le bébé a discriminé entre pas et bas, évidemment. Tandis que si vous continuez avec pas, non, ça continue à être pas très intéressant. Et aussi, si vous proposez deux stimuli physiques qui sont aussi éloignés physiquement que pas par rapport à bas, mais qui sont du même côté de la catégorie de la barrière perceptive, le bébé ne discrimine pas, exactement comme l'adulte. Okay? Donc, la perception est catégorielle dès le début, pour ainsi dire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être déterminé à partir de l'expérience. Bon, laissons tomber ça. Voilà, il y a un élément d'acquisition quand on détermine le système phonologique de la langue qu'on est en train d'apprendre, n'est-ce pas ? Si nous regardons l'inventaire des sons possibles qui sont utilisés par les langues du monde, ben, les phonéticiens nous disent qu'il y a environ 800, et puis ça peut varier un tout petit peu, mais par exemple, des phonéticiens comme Ladefoge nous disent qu'il y a environ 800 sons que les langues naturelles peuvent utiliser. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais l'ordre de plusieurs centaines, en tout cas. Alors, chaque langue a un nombre de phonèmes de quelques dizaines, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, donc il y a de la variation. Mais il est clair qu'il faut pouvoir opérer un choix, n'est-ce pas ? On n'utilise pas tout l'inventaire disponible aux langues humaines dans une langue particulière. Alors, comment est-ce que ça a lieu ? Il y a deux hypothèses possibles. Il est toujours intéressant de considérer les cas extrêmes. Puis la vérité parfois se trouve à mi-chemin, mais pour clarifier conceptuellement une question, il faut considérer les cas extrêmes et voir un peu quelles seraient les prédictions de différents types d'approches. Donc une première manière d'extrémiser la chose, ce serait de dire que le bébé n'a accès à aucune distinction au début, hein, donc tout est confus, un peu à la William James, au début, et c'est seulement par l'apprentissage lentement que le bébé arrive à déterminer quel est l'inventaire de son de la langue qui lui est présentée. La deuxième hypothèse, c'est le contraire exact, c'est-à-dire le bébé, au début, a accès à toutes les distinctions, accès potentiellement à tous les sons qui sont utilisés par les langues naturelles, et il opère un choix, il opère une sélection. Est-ce que un ou deux est l'hypothèse correcte ? Eh bien, dans ce cas spécifique, il y a des très bonnes raisons de croire que l'hypothèse de la sélection est l'hypothèse correcte. Ce qui n'est pas du tout évident, hein, parce que quand nous pensons à l'apprentissage, nous ne pensons pas à une réduction des options, nous pensons plutôt à une extension des options. Mais ça montre, en effet, que au moins dans certains domaines, les choses marchent autrement. C'est ce qui a été appelé apprentissage par l'oubli, et j'ai donné ici la caractérisation de Meller et Dupuis. L'apprentissage d'une langue se traduit en fait par une perte partielle, par la sélection de certains contrastes et l'oubli d'autres qui ne sont pas pertinents. Les tout petits bébés discriminent tous les contrastes auxquels ils sont confrontés, tandis que vers 8 ou 10 mois, il montre la même aptitude, mais seulement pour les contrastes de leur propre langue. À 12 mois, ils se conduisent comme des adultes. Ils ne sont plus sensibles aux contrastes étrangers. Okay? Donc il y a un effet de développement ici, dans la première année de la vie, fondamentalement. Ici, vous avez une fameuse expérience qui montre cela de Janet Werker, cette psycholinguiste canadienne, qui a pris pour cette expérience le contraste entre ta et ta, ta et ta, ta et ta. Vous n'entendez pas grand-chose dans ce contraste, en partie à cause de ma modeste attitude de phonéticien, mais surtout parce que votre langue maternelle n'utilise pas ce contraste. Hein. Le français n'utilise pas ce contraste, l'anglais n'utilise pas ce contraste. C'est le contraste entre un ta dental où la pointe de la langue touche les dents ou les alvéoles et ta où la pointe de la langue est, on appelle ça rétroflexe, est un tout petit peu en arrière. Il y a des langues qui utilisent cette distinction, par exemple le hindi, hein, mais beaucoup d'autres en effet utilisent cette distinction. Alors voyez ce qui se passe. L'enfant anglophone à 6 mois est parfaitement capable de discriminer ta et ta. Puis à 8 mois, moins bon. À 10 mois, 12 mois, pratiquement impossible de discriminer ces deux sons. Par contre, l'enfant exposé au hindi, à l'hindi, à 1 an, est à 100% dans cette discrimination. N'est-ce pas ? Parce que, évidemment, cette distinction est utilisée par cette langue, par ce système. Il y a beaucoup de résultats de ce type. Hein. Ça a été une découverte extraordinairement intéressante. Comme vous voyez, on a vu, par exemple, que les contrastes de sonorité aussi. Il y a des langues comme les Kikuyu, par exemple, qui n'utilisent pas des contrastes de sonorité, qui n'ont pas des oppositions de type pa-ba, n'est-ce pas ? Donc, qui n'utilisent pas cette opposition pour créer des mots différents, fondamentalement. Et donc, à la naissance, les enfants exposés au Kikuyu sont parfaitement capables de percevoir cette distinction. Mais plus tard, à l'âge d'un an, ça se perd. Même chose pour une distinction bien connue comme variable à travers la langue, la distinction entre « la » et « ra ». Qui n'est pas du tout utilisée dans certaines langues. La langue de l'Extrême-Orient, par exemple, ne l'utilise pas. Un locuteur du japonais n'utilise pas cette distinction. Les adultes japonophones, qui sont exposés à des pairs comme l'en-ren, par exemple, n'arrivent pas facilement à la percevoir. Mais, comme Tsushima a montré, et d'autres ont montré, à 6 mois, les enfants japonophones sont parfaitement capables de discriminer ici, mais non pas à 12 mois. Donc à 12 mois, ils ont déjà perdu cette distinction. Même chose pour les systèmes vocaliques. Il y a une convergence chez les jeunes enfants vers le système vocalique de la langue. Les systèmes de ton, même certains contrastes manuels de la langue des signes, et ici, nous allons en direction du séminaire de Caterina, qui va venir après. Donc même certains contrastes manuels de la langue des signes qui ont à voir avec l'ouverture de la main sont perçus à 4 mois. Donc un enfant qui n'est pas exposé à la langue des signes, à 4 mois, perçoit certaines distinctions qui sont utilisées par la langue des signes au niveau manuel, mais ne sont plus perçues par l'enfant de 14 mois. Donc il y a le même type de perte de sensibilité qu'on observe chez les langues orales, ce qui va dans le sens de dire que la langue des signes, que les capacités linguistiques sont en effet des capacités amodales, sont accessibles à différents types de modalités selon le canal qui est accessible pour l'externalisation du langage. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène ? Janet Werker, le grand spécialiste de cet ensemble de découvertes, d'observations empiriques, montre qu'en effet, ce n'est pas une perte d'acuité perceptive. Ce n'est pas que l'enfant d'un an entend moins bien que l'enfant à la naissance. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt une réorganisation fonctionnelle. Et Janet Werker suggère que cette perte d'attention pour les distinctions qui ne sont pas pertinentes pour la différenciation lexicale est liée justement à l'énorme tâche avec laquelle l'enfant est confronté d'apprendre le lexique. Si vous pensez à la dimension du lexique, la taille du lexique, nous tous connaissons des dizaines de milliers de mots, n'est-ce pas? Et comment avons-nous pu apprendre cela? L'apprentissage lexical est une sorte de miracle dans le miracle de l'acquisition du langage. Les spécialistes observent que dans la période de l'explosion de l'acquisition lexicale, l'enfant arrive à apprendre 10 nouveaux mots par jour, ce qui est énorme, ce qui est vraiment spectaculaire. Alors, l'hypothèse de Janet Werker est que le fait de pouvoir ne pas prêter attention à certaines caractéristiques non pertinentes facilite la tâche. Donc, l'enfant ne doit pas prêter attention à toutes les spécificités phonétiques, mais seulement aux spécificités phonétiques qui permettent, dans la langue que le petit est en train d'apprendre, qui permettent de différencier des éléments lexicaux, n'est-ce pas ? Donc, des distinctions phonétiques qui créent des paires minimales, comme les linguistes disent. Voilà, donc tout cela en perception, en production, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le babillage, la propriété qui avait frappé l'imagination de Darwin, vous vous souvenez, et le babillage donc, commence en gros vers 6 mois, production de syllabes comme ba-ba-ba, ba-ba-da. Fondamentalement, la caractéristique commune du babillage est qu'il n'y a pas un sens identifiable. Donc, quand l'enfant babille, on ne peut pas, il n'y a pas un contenu référentiel de ce qu'il produit. Un peu plus tard, vers 10 mois, 12 mois, il y aura les premiers mots reconnaissables. Alors là, il y aura effectivement un contenu référentiel identifiable. Maman, papa, Lolo, etc., etc. Mais dans la phase du babillage, non. Il n'y a rien de comparable à un sens associé à la séquence. Mais dans le babillage aussi, on observe un développement. Au début, le babillage est universel. Donc, fondamentalement, tous les enfants babillent de la même manière. Utilisent surtout des occlusives, utilisent surtout de voyelles basses, de voyelles comme A. La voyelle typique du babillage ou d'autres voyelles basses. La structure syllabique est très simple, consonne voyelle fondamentalement. Okay. Et puis, vers 8 mois, de 8 mois à 10 mois, etc., il y a une tendance à converger vers les propriétés du système phonologique de la langue. Donc, et en compréhension et en production, dans la deuxième moitié de la première année de la vie, il y a une convergence. L'enfant se déplace, disons, d'une position universaliste à une position où il est en train de maîtriser les caractéristiques propres du système qu'il est en train d'apprendre. Voilà. Donc, par exemple, vers 8 mois, il y a ce travail de Bénédicte de Boisson-Bardy, spécialiste française du babillage et d'autres aspects d'acquisition du langage, où elle observe que dans cette deuxième phase du babillage, les adultes commencent à reconnaître le babillage. Ils disent « Ah, cet enfant babille en français plutôt qu'en chinois, par exemple », parce qu'il y a une convergence vers les propriétés de la langue en question. Il y a aussi un babillage manuel. Nous revenons à la langue des signes, dont il sera question dans une demi-heure, dans trois quarts d'heure. Babillage manuel, cette psycholinguiste canadienne, Laura Petitto, a observé, avec ses collaborateurs, a observé que pour les enfants exposés à la langue des signes, il y a un babillage manuel, c'est-à-dire l'enfant exposé à la langue des signes commence à produire des structures qui ressemblent un peu aux structures syllabiques produites par l'enfant exposé à la langue orale, avec certaines caractéristiques communes. Il n'y a pas de sens associé, il y a des formes canoniques, donc avec répétition du même signe ou avec certaines variations, etc. Et donc, on observe cette phase de babillage manuel, ce qui suggère encore une fois que nos capacités linguistiques sont assez abstraites et puis elles prennent le canal qui est disponible, pour ainsi dire, pour l'externalisation. Revenons un instant en arrière. Tout au début, j'ai parlé du fait qu'il y a une préférence pour la parole par rapport à d'autres bruits accessibles, n'est-ce pas? On a pu montrer aussi qu'il y a une préférence pour la langue des signes par rapport à un système non linguistique comme la pantomime. On a demandé, par exemple, à un locuteur de langue de signes de décrire un certain événement en langue de signes. Et puis de décrire le même événement, mais par une pantomime, donc en mimant l'événement, donc de manière non linguistique, fondamentalement. Vous voyez que l'enfant à 6 mois, même un enfant qui n'est pas exposé à la langue de signes, a une préférence pour la présentation en langue de signes par rapport à la pantomime. Donc ça rappelle la préférence pour la parole dont nous avons parlé tout au début. Ok, donc essayons de généraliser un tout petit peu. Il y a deux grandes notions d'apprentissage. Ça, c'est une question très profonde, très ancienne aussi. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Quel est le mécanisme ou quels sont les mécanismes à la base de l'apprentissage? Et c'est bien sûr une question qui remonte à la pensée grecque, classique, etc. Il y a ces deux grandes manières de concevoir l'apprentissage. Apprentissage par instruction, ça veut dire que la réalité externe a une structure et l'apprentissage correspond au fait de intérioriser, de transférer la structure externe, donc de l'extérieur à l'intérieur de l'organisme qui apprend. Apprentissage par sélection, c'est par contre le mécanisme dont on a parlé avant pour l'acquisition des traits distinctifs, c'est-à-dire l'organisme a la capacité d'engendrer suffisamment de diversité, faire suffisamment d'hypothèses, et ensuite l'expérience a le rôle de sélectionner. Certains éléments, certains des hypothèses internes sont sélectionnés et d'autres sont écartés, sont rejetés, pour ainsi dire. Okay? Nous avons vu, au moins dans le cas de l'acquisition des traits distinctifs, que il y a des arguments empiriques très très clairs en faveur d'un mécanisme sélectionnel pour ce type d'apprentissage. C'est un mécanisme d'apprentissage qui est aussi totalement compatible avec ce qu'on sait des bases neuronales de l'acquisition. Par exemple, ici j'ai mentionné cet ouvrage très connu de Jean-Pierre Changeux, L'homme neuronal. Changeux dit « Apprendre, c'est stabiliser des combinaisons synaptiques préétablies. C'est aussi éliminer les autres. » Donc, son mécanisme donne une base neurophysiologique pour cette idée de la sélection, fondamentalement. Ce sont des idées qui sont développées aussi en détail dans l'ouvrage récent de Stanislas Dehaene, « Apprendre ». Voilà, je voulais juste, pour terminer cette partie, mentionner cet article de Massimo Piatelli Palmarini, où Massimo essaye de retracer un peu l'histoire de la notion d'apprentissage, non seulement dans les sciences cognitives, mais aussi en biologie. Et il suggère que dans plusieurs domaines des sciences cognitives et de la biologie, le développement a été systématiquement, on part d'une hypothèse instructive et puis on passe à une hypothèse sélective, pour des raisons empiriques fondamentalement. Voilà donc l'exemple. Bon, il cite dans cet article plusieurs exemples, mais un exemple qui est spécialement intéressant est celui de l'immunologie. Donc, il parle de Niels Jernes, ce grand spécialiste d'immunologie, dont la Nobel Lecture, quand il a reçu le prix Nobel, vous savez, on fait une conférence, était intitulé « The Generative Grammar of the Immune System ». Donc, il fait un parallèle entre la grammaire du langage et la grammaire du système immunitaire. Et donc, il dit des choses comme ça. Donc, les anticorps ne sont pas des échos de l'antigène qui est en train d'envahir l'organisme, mais étaient déjà disponibles à l'animal dans son répertoire. Donc l'animal a son répertoire tout fait, pour ainsi dire, avant l'arrivée de l'antigène. This is important insight that followed the introduction into immunology of the selective theories. Donc il dit, voilà, l'immunologie a fait des pas de géant à partir des années 50 quand on a introduit cette vision sélective qui a remplacé la vision instructive précédente. Donc Massimo Piatel il dit, il y a plusieurs secteurs des sciences cognitives, mais aussi de la biologie fondamentale, qui ont affaire avec la notion d'apprentissage, qui ont montré ce type de développement. Voilà. Mettons pour l'instant de côté l'étude expérimentale de l'état cognitif initial et parlons un peu de l'autre approche, de l'autre stratégie de recherche, ce que j'ai appelé une stratégie rétrospective, hein, partir de l'état stable et remonter à l'acquisition. Ici, un rôle majeur est lié à cette personnalité que vous connaissez, Noam Chomsky, si la photo remonte à quelques années avant, n'est-ce pas ? Plus ou moins, je pense, quand il a écrit l'ouvrage que je voudrais citer maintenant, c'est-à-dire le fameux compte-rendu de Verbal Behavior de Skinner, publié dans Language en 59. C'est un compte-rendu extrêmement important, au point que quand on essaye, vous savez, les historiens des sciences essayent de dater la naissance des sciences cognitives, l'une des dates de naissance est justement ce fameux compte-rendu où Chomsky attaque la pensée dominante en psychologie, le behaviorisme, fondamentalement, en montrant comme les hypothèses de base du behaviorisme n'arrivent même pas, ne permettent même pas de commencer à comprendre le fonctionnement des capacités humaines. Il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, ce qu'il dit ici, je lis toujours la traduction française, une tentative directe de rendre compte du comportement effectif du locuteur, du récepteur et de l'apprenant, qui ne soit pas fondée sur une compréhension préalable de la grammaire, obtiendra un succès très limité. Donc si on se limite à observer le comportement, enregistrer le comportement, cataloguer le comportement, sans faire des hypothèses sur le système sous-jacent, sur le système mental qui est à la base du comportement, on n'ira pas très loin, ni dans le traitement du comportement du locuteur, ni dans l'étude de l'acquisition du langage. Et immédiatement après, bon, on ne voit pas très bien le numéro de Language, mais peu importe. En tout cas, c'est Language, c'est la revue de la Linguistic Society of America. Donc, Chomsky dit dans ce review, dans ce compte-rendu, le fait que tous les enfants, ici il parle spécifiquement d'acquisition, le fait que tous les enfants normaux acquièrent des grammaires comparables d'une grande complexité avec une rapidité remarquable suggère que les êtres humains sont d'une certaine façon spécialement prédisposés pour faire cela. Vous voyez, ça rappelle l'idée de Darwin, n'est-ce pas ? Donc la tendance instinctive. Ils doivent être spécialement prédisposés avec des adaptations à la manipulation des données et à la formulation d'hypothèses d'un caractère et d'une complexité inconnues. Ben, c'était effectivement totalement inconnu quand Chomsky écrivait ça dans les années 50. Maintenant, on sait beaucoup plus. On a vu certains types de data handling and hypothesis formulating, n'est-ce pas, dans les expériences que nous avons discutées. Mais le message est très clair, c'est-à-dire qu'il faut faire des hypothèses sur les états mentaux afin de pouvoir traiter l'acquisition du langage et afin de pouvoir traiter la performance adulte avec le langage. On ne peut pas se passer de ces modèles précis, des compétences sous-jacentes. Voilà. Et parlons un tout petit peu de... À vrai dire, je regarderai aujourd'hui dans le temps qui reste, une propriété des langues adultes par rapport à laquelle on se posera la question de l'acquisition. Comment est-ce que l'enfant a pu déterminer cette propriété ? Alors ici, je mets en relation deux propriétés. Le langage humain a une portée illimitée. Comme je le disais, nous pouvons toujours inventer une phrase nouvelle, mais on va parler de cela la prochaine fois. Je voudrais me concentrer plutôt sur la deuxième propriété. Les expressions linguistiques sont organisées hiérarchiquement. La prochaine fois, on va voir la relation entre ces deux propriétés, mais considérons la question de la structuration hiérarchique. Si nous pensons à n'importe quelle phrase, n'importe quel énoncé, n'est-ce pas ce que je suis en train de produire, par exemple, les énoncés linguistiques se présentent comme une séquence d'éléments. Donc une séquence de sons, par exemple, une séquence de syllabes. Si vous regardez à l'écrit une séquence de graphèmes, une séquence de morphèmes, de mots, etc., d'entités, comme une suite de perles dans un collier. Mais cette organisation linéaire qui est visible, qui est audible, cache une organisation invisible beaucoup plus complexe, qui est hiérarchique, et qui est beaucoup plus importante. Parce que tous les phénomènes linguistiques sont sensibles à l'organisation hiérarchique et non pas à l'organisation linéaire. Quoique l'organisation linéaire est ce qui nous est immédiatement donné, ce qui est immédiatement visible. Alors, discutons un exemple de cet état de choses, un exemple qui est noble, hein, qui a été discuté pour l'une première fois, pas tout à fait la première fois, dans un contexte extrêmement intéressant, qui a été le débat entre Piaget et Chomsky, organisé vers la moitié des années 70 à l'abbaye de Royaumont, ici, pas trop loin d'ici, disons, par notre ami Massimo Piatelli-Palmarini, dont j'ai parlé avant. Donc Massimo a eu cette très bonne idée d'inviter Piaget avec son école et Chomsky à présenter leur point de vue sur l'acquisition du langage, fondamentalement. Les deux s'étaient occupés de manière très différente d'acquisition du langage. Et Massimo a créé ce débat qui avait un public qui était un véritable parterre du roi, hein, parce qu'il y avait toute une série de grands scientifiques français, par exemple des physiciens comme Jacques, des biologistes comme Jacques Monod, comme François Jacob, par exemple, hein, comme Jean-Pierre Changeux. Et puis il y avait des philosophes comme Jerry Fodor, des anthropologues comme Dan Sperber, et puis des psychologues comme Jacques Meller, par exemple, comme les grandes psychologues piagétiennes Mimi Sinclair et Berbel Inelder, etc. Donc c'était un groupe tout à fait extraordinaire qui, pendant quelques jours, a discuté des deux approches de Chomsky et Piaget. Il y a un livre qui est toujours... on peut toujours l'acheter, je pense, « Théorie du langage, théorie de l'apprentissage », ça vaut vraiment toujours la peine de le lire, même si c'est quelque chose qui remonte aux années 70. Alors, au début du débat, Chomsky et Piaget ont présenté leur point de vue. Piaget a fait une présentation très abstraite, très conceptuelle, avec très peu d'exemples. Chomsky a fait exactement le contraire. Il est parti de certains exemples. Il a dit, voilà, ici, il y a des exemples que nous connaissons tous en tant que locuteurs de l'anglais. Et donc, il faut se poser la question, comment, moi, en tant que locuteur de l'anglais, j'ai pu acquérir la capacité de traiter ces faits. Un exemple très connu est celui de la formation de questions en anglais. Donc, comment est-ce que vous formez une question oui-non ? Vous prenez une déclarative, John is happy, vous déplacez, vous faites une sorte d'inversion entre le sujet et l'auxiliaire, vous obtenez is John happy ? La question oui-non correspondante. On peut se poser le problème, la question ici, est-ce que cette opération est purement linéaire, c'est-à-dire j'opère sur la séquence d'éléments, je les déplace en respectant simplement la séquence, ou bien c'est hiérarchique, est-ce que je dois tenir compte de la structure verticale, de la structure syntaxique dans un sens plus profond, du terme. On peut observer que ce type de processus obéit à certaines contraintes. Par exemple, tous les phénomènes linguistiques obéissent des contraintes de localité. On ne peut pas faire les choses trop à distance. Hein. Par exemple, si vous avez une structure un peu plus complexe où il y a un auxiliaire ou une copule dans la phrase principale et puis une autre dans la subordonnée, « John is saying that Mary is here », ben, et si vous voulez former la question à partir de ça, la seule possibilité, c'est de prendre l'occurrence de be la plus proche, obtenir « Is John saying that Mary is here ?» Si vous essayez l'autre possibilité, c'est-à-dire de prendre celle qui est plus lointaine, le résultat que vous obtenez, ce n'est pas du tout de l'anglais, c'est une sorte de salade de mots, n'est-ce pas ?« Is John is saying that Mary is here ?» Tout totalement inconcevable. Donc, c'est un cas particulier d'une contrainte de localité, comme on a des contraintes de localité un peu partout dans le langage. Il faut prendre l'élément le plus proche. Mais le plus proche en quel sens ? N'est-ce pas ? Ici, la notion linéaire, la notion hiérarchique coïncide. C'est toujours cette occurrence qui est la plus proche. Mais dans un autre type d'exemple, les deux notions de proximité linéaire et proximité hiérarchique sont dissociés. Donc prenez un exemple comme « The man who is here is happy ». Vous voyez, ce que vous avez, c'est que vous avez le sujet qui est modifié par une phrase relative, laquelle a sa propre occurrence du verbe « être ». Et ici, évidemment, ce qu'il faut faire pour former une question, c'est prendre, non pas la première, mais la deuxième occurrence de « être » pour obtenir « Is the man who is here happy ?» Okay. C'est bon. Si vous essayez de prendre l'occurrence la plus proche en termes linéaires, celle qui se trouve dans la relative, le résultat que vous obtenez, encore une fois, c'est word salad, c'est salade de mots. Is the man who here is happy? Totalement impossible, évidemment. Okay? Mais alors, Chomsky dit, ceci montre que le calcul de la proximité pertinent ici est fait sur la structure, non pas sur l'ordre linéaire. Parce que si c'était fait sur l'ordre linéaire, ça serait l'occurrence la plus proche qui serait déplacée en position initiale. Alors j'ai beaucoup parlé de structure, mais enfin, on arrive au premier arbre, puis on en verra beaucoup. Ça, c'est la structure verticale, la structure hiérarchique de cette phrase. Nous avons le sujet, the man, le prédicat, is happy, et puis le sujet est modifié par une relative, who is here, dans ce genre de configuration. Et ici, pour former une question, on attire une occurrence de l'auxiliaire, et vous voyez qu'il est tout à fait clair que l'occurrence la plus proche est celle-ci, est le verbe être de la principale. Si vous utilisez une simple méthode, par exemple, vous comptez le nombre de branches simples, 1, 2, 3 et 4, tandis que si vous aviez décidé de chercher l'autre occurrence, ça serait beaucoup plus lointain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il est clair que cette très simple notion de distance, certainement inadéquate, hein, parce qu'il faut être plus raffiné que cela. Mais en tout cas, en toute première approximation, ça nous donne déjà l'idée en quel sens cette occurrence d'être est plus proche de la position initiale par rapport à l'autre. Mais vous voyez qu'ici, la notion linéaire de proximité et la notion hiérarchique sont dissociées et la notion hiérarchique gagne. Et c'est toujours comme ça. Dans le langage naturel, chaque fois que les deux notions de proximité sont en compétition, c'est toujours la notion hiérarchique qui gagne. Ce qui suggère que toute l'organisation grammaticale de langue naturelle est hiérarchique, fondamentalement. OK, mais qu'est-ce que les enfants arrivent à faire avec ce genre de choses, n'est-ce pas ? Chomsky disait dans son argument à Royaumont, bon, les adultes n'ont aucun doute que la forme interrogative de 4A est 4B et non pas 4C, et les enfants aussi, il disait. Les enfants ne produisent pas d'erreurs de ce type, jamais. Et donc là c'était plutôt une considération anecdotique, hein. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il n'avait pas vraiment d'argument expérimental à offrir à l'appui de cette observation. Le travail expérimental a été fait par la suite par Stephen Crane, qui a fait ce type d'expérience. Donc ici, il faut tester les enfants, il faut créer des situations de jeu, en particulier si on essaye de faire produire les enfants. On appelle cette technique production induite, c'est-à-dire on crée une situation de jeu où on fait produire à l'enfant la structure en question, si l'enfant est capable de le faire. Donc on teste s'il y a cette capacité. Donc ils ont pris des enfants à partir de 3 ans environ, pour produire des structures un peu complexes, avec des relatives, et pour voir comment les enfants formaient les questions. Donc voilà la situation expérimentale, il y a un monsieur Jabba, ou je ne sais pas, Jabba the Hutt, quelqu'un qui vient d'une planète lointaine, qui résonne parfois de manière un peu différente par rapport aux êtres humains. Alors l'enfant a envie de savoir ce qu'il pense de certaines situations. Alors l'adulte dit, tu peux lui poser une question. Par exemple, « Ask Jabba if the man who is beating a donkey is mean. » Donc demande à Jabba si l'homme qui est en train de battre un mule est méchant. Alors là, il y a deux hommes, l'un qui bat le mule, l'autre qui fait autre chose avec des mules, donc il est nourri, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et donc, dans le stimulus de l'expérimentateur, il y a une question indirecte, donc on n'utilise pas encore le mouvement de l'auxiliaire qui formerait la question directe. Donc l'attente est que si l'enfant est capable de le faire, il produira des questions directes, comme en parlant avec Jabba, « Is the man who is beating a donkey mean ?» Et si l'enfant respecte le principe qui respecte la structure fondamentalement, qui ne viole pas l'organisation structurale, il ne produira pas quelque chose comme « Is the man who beating a donkey is mean ?» De nouveau, la structure tout à fait impossible, reconnue comme telle par l'adulte. Alors, quels sont les résultats que Crane et Nakayama ont obtenus? À première vue, c'est un peu décevant, parce que le groupe le plus jeune d'enfants ne produisait que 38% de structures correctes. Donc la plupart des structures qu'ils produisaient, c'était des structures agrammaticales, des structures qui n'étaient pas correctes. Mais il faut regarder les erreurs que le petit faisait. Hein, et c'est ça ce qui est crucial maintenant. Il ne faisait pas du tout d'erreurs qui violaient l'organisation structurelle. Il faisait d'autres types d'erreurs. Et il produisait une minorité de structures correctes, mais qui correspondaient au bon mouvement, au mouvement que l'adulte fait. Donc voyons un peu quels étaient les résultats, et puis je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, un cas typique d'erreur produit par l'enfant, c'était de commencer la question par le verbe « être », mais puis d'avoir les deux occurrences d'être dans leur position normale, pour ainsi dire, comme dans la déclarative. Donc, « is the man who is beating a donkey is mean ». Hein, ce n'est pas une structure possible pour l'adulte, mais c'est une manière de signaler la question et où apparemment rien ne bouge. Apparemment, parce que peut-être en effet quelque chose bouge, mais de manière plutôt cachée. En tout cas, ça c'était la plupart des erreurs produites par les enfants. 60% des erreurs étaient ce type de structure qui ne porte pas simplement sur la question si l'enfant respecte ou ne respecte pas la structure. Tout simplement, la structure est telle qu'elle est et il y a en plus ce marqueur initial, fondamentalement. Okay. Le point essentiel, que Crane et Nakayama soulignent est que dans la minorité d'exemples corrects produits par les enfants déplaçaient la bonne occurrence de être, donc ils produisaient des structures comme « is the man who is beating a donkey mean ?» Donc ils produisaient ça, et ils ne produisaient jamais des erreurs de ce type. Donc des erreurs qui auraient consisté à prendre l'occurrence la plus proche du verbe « être » en termes linéaires, n'était jamais produit par les enfants. Donc les enfants faisaient beaucoup d'erreurs d'un autre type, témoignage de la complexité de la structure, pour ainsi dire, mais ils ne produisaient jamais le type d'erreur qui aurait montré que l'enfant considérait une stratégie purement linéaire. Donc, conclusion qui est tirée par nos auteurs, c'est ben, Chomsky avait raison, c'est-à-dire l'enfant ne considère même pas la possibilité d'une règle purement linéaire. Bon, passons juste deux ou trois minutes à discuter le type d'erreur que les enfants faisaient, parce que c'est de toute façon un argument intéressant, mais le point essentiel, ce que je viens de dire. Donc, quelle pourrait être la nature de cette structure « is the man who is beating a donkey is mean » ben, une possibilité qu'on peut envisager est que cette structure soit un peu comme celle qu'on trouve dans plusieurs langues, le français par exemple, où il y a un marqueur initial de question, et puis le reste ne bouge pas, reste exactement dans sa position. Pensez en français comment vous traduirez cette phrase. Une possibilité, c'est « est-ce que l'homme qui est en train de battre un mule est méchant ?» N'est-ce pas ? Ou vous avez ce marqueur initial, est-ce qu'on peut encore discuter si c'est simple ou complexe, mais en tout cas, il se peut que l'enfant qui produit ce genre de structure utilise une stratégie française, pour ainsi dire. On verra que ça, c'est tout à fait typique. L'enfant, quand il a une difficulté, très souvent utilise une stratégie grammaticale qui n'est pas propre de la cible, mais qui est utilisée dans une autre langue. C'est une situation qu'on trouve très, très systématiquement. Donc, il se peut que l'enfant soit en train de produire une structure à la française, pour ainsi dire. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que, en effet, il y a un mouvement dans la dérivation de cette structure, mais contrairement au mouvement adulte, le mouvement adulte, normalement, quand on vide une position, on laisse une position qui n'est pas prononcée. C'est ce qu'on appelle une trace du mouvement. Mais peut-être ce que l'enfant fait ici, c'est de prononcer la trace, de prononcer et la position d'arrivée du mouvement et la position de départ de l'enfant, du mouvement. Pardon. Et on sait que l'enfant fait ça, parce que, par exemple, dans les corpus de production naturelle, on trouve des exemples comme « Can the man can do that ?» Vous voyez que « can » a été déplacé en position initiale, mais il est aussi prononcé dans sa position d'origine. C'est une manière de se faciliter la tâche dans certains types de manipulations qui se révèlent relativement complexes pour l'enfant. Alors, je voudrais juste mentionner, je termine, bon, je laisse tomber ça, que cette stratégie de prononcer et la position de départ et la position d'arrivée est en effet quelque chose qu'on trouve dans les langues adultes. C'est une procédure typique dans certaines configurations des langues adultes. Par exemple, si vous prenez des langues africaines comme le Vata, par exemple, étudié par Hilda Koopman, il y a dans ces langues la possibilité de focaliser un verbe. Donc vous avez une phrase comme « nous mangeons du riz », vous voulez focaliser le verbe, donc vous voulez dire « nous mangeons du riz, nous ne le jetons pas », par exemple, avec ce type d'alternative. Et la manière de focaliser le verbe, c'est de l'avoir en position initiale et dans sa position normale, donc quelque chose comme « manger, nous manger, riz », quelque chose comme ça. Et puis, il ne faut pas aller chercher dans des langues très lointaines, aussi les langues romanes ont cette propriété. Dans cet exemple tiré de l'italien, ce n'est pas la focalisation, mais la topicalisation. Un verbe peut être un topic dans certaines situations, comme dans cette petite chanson italienne du 19e siècle. partire, partiront, partir bisogna. Donc en ce qui concerne le fait de partir, je partirai, il faut partir. Donc vous voyez que le verbe partir est topicalisé, donc c'est ce dont on va parler, et puis il est répété à l'intérieur de la phrase, partiront. Et donc on trouve chez les langues adultes ce processus de duplication d'un verbe qui est vraisemblablement ce qui est utilisé par l'enfant dans les exemples difficiles des structures qui ont été testées par Crane et Nakayama. Voilà, donc le point essentiel, en tout cas, qu'on a observé ici, est que les petits ne produisent jamais des structures qui seraient sensibles uniquement à l'ordre linéaire, et donc ce type de processus grammatical obéit systématiquement la structure hiérarchique. Et ceci est vrai, en effet, de tous les processus grammaticaux. N'importe quel processus on regarde, on trouve exactement la même conclusion. Bien, alors je pense que je vais m'arrêter ici.